All right. Dad?
Poser un certain nombre de jalons en ce qui concerne les relations entre plusieurs disciplines artistiques. Parce qu'en fait, que ce soit entre la musique et la poésie, la musique et la danse, ou la musique et les arts plastiques, ou la musique et le cinéma, ce qui va nous préoccuper aujourd'hui, il y a de toute façon au moins trois axes principaux auxquels on peut difficilement échapper. Un de ces axes qui est le plus pratiqué, c'est celui de l'imitation. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de renforcer une expression artistique par une autre expression artistique. Alors, que ce soit par exemple dans la musique de danse, ou bien que ce soit au cinéma, c'est vrai que c'est une dimension qui prédomine. Alors, est-ce que je devrais dire peut-être hélas, parce que c'est vrai que c'est assez limitatif, c'est ce qu'on appelle aussi la redondance, c'est-à-dire que bon, on essaye de voir ce qui peut coller d'un système, d'un mode d'expression à un autre. Une autre notion, ce serait celle d'écart, d'intervalle, voire d'opposition. C'est-à-dire que deux expressions artistiques se confrontent, mais elles ne disent pas la même chose au même moment. Là, pour moi, évidemment, ça m'intéresse déjà davantage, parce qu'on n'a pas deux voix parallèles qui s'expriment, mais on a une sorte de contrepoint entre des phénomènes dont chacun possède sa propre logique, et qui évolue selon les nécessités de l'œuvre. Exemple très que justement emprunté au cinéma, que vous ne pouvez pas ne pas connaître, c'est Psychose. Bon, Psychose, je pense que vous l'avez tous vu, enfin j'espère. Qu'est-ce qui se passe par exemple au début de Psychose, après le générique, on voit Marion, une jeune femme qui va à son travail. Bon, quoi de plus banal, enfin c'est vraiment une image du quotidien. C'est en fait la musique qui nous propulse, d'ailleurs j'ai une phrase de Bernard Herrmann, c'est la musique qui vous dit qu'elle s'est embarquée dans une très dangereuse et horrible expérience. Ah oui, sinon, je veux dire, on aurait quelque chose d'extrêmement banal. Or là, c'est vrai que la musique est porteuse de cet élément dramatique pour la malheureuse Marion. Donc voilà, là il y a un décalage, c'est-à-dire que la musique anticipe le drame. Elle peut aussi, par moments, redonner, enfin, donc il peut y avoir une espèce de polyphonie temporelle, c'est-à-dire dans la mesure où la musique, par exemple, peut superposer différents éléments dont certains sont des rappels de situations qui sont déjà apparues, etc. Donc elle a cette possibilité, avec par rapport à l'image, de jouer sur la temporalité, sur le temps et sur des effets de mémoire. Troisième axe, c'est celui de l'indépendance. Ça, c'est un axe qui est apparu beaucoup, beaucoup plus récemment et beaucoup plus rarement pratiqué. On fait fonctionner deux modes d'expression, mais sans chercher à tout prix la relation de cause à effet entre un élément et un autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément qui appelle un autre, il y a deux phénomènes qui sont mis en présence, qui ont par exemple en commun le temps, mais sans que l'on puisse vouloir à tout prix dicter la perception des relations entre ces phénomènes. Il n'y a pas de caractère d'évidence à inscrire une musique par rapport à quoi que ce soit, par rapport à un texte, par rapport à des images, à des mouvements de danse, etc. Il y a absolument, c'est toujours un défi, il y a toujours un conflit, et ce conflit, on ne peut pas y échapper. Alors on peut créer toutes sortes de possibilités de dialogue entre les participants d'un projet artistique, mais en tout cas, il y a toujours quelque part une tension, et cette tension est très bénéfique. Alors, voilà par exemple ce que disait le philosophe Adorno et Hans Heisler, qui est un grand compositeur de musique de film. Voilà ce qu'il dit. La musique de film n'est pas faite pour être entendue. L'idéologie de ce préjugé est fournie par l'idée un peu vague selon laquelle le film, comme ensemble organisé, modifie la fonction de la musique en la subordonnant exclusivement à l'image. Là, on a déjà un certain nombre de termes qui sont extrêmement importants, c'est-à-dire la musique doit-elle être subordonnée à l'image? Qui doit dominer dans cette histoire? Et c'est vrai, si vous voulez, que nous sommes dans la civilisation occidentale, nous sommes très fortement orientés sur la domination du visuel, et c'est vrai que le cinéma a considérablement pris le pouvoir sur l'élément sonore, donc ça veut dire que la musique a souvent été soumise aux lois imposées par l'image et donc par le réalisateur. En fait. Et donc, déjà, là, il faut bien se rendre compte de cela. Alors, d'où est venue cette question de la musique au cinéma? Bon, d'une manière tout à fait banale, si on remonte un peu plus d'un siècle en arrière, tout simplement à la nécessité technique de couvrir le bruit du projecteur. C'est tout bête. Ça paraît un peu stupide, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que le projecteur ne donnait pas forcément une sonorité spécialement stimulante, donc il fallait bien un élément sonore qui permette de couvrir, et puis en même temps, bon, ben, en le couvrant, on s'apercevait qu'on pouvait jouer sur toutes sortes de modalités psychologiques par rapport à ce qui était présenté à l'image. Donc, très vite, vous allez avoir la présence de musiciens improvisateurs, par exemple un pianiste qui va se trouver face à l'écran et puis qui improvise par rapport à un film muet. Alors ça, c'est les premiers temps, si vous voulez. Quand le parlant va apparaître, là, il y a une autre donnée qui va intervenir, c'est la parole, le bruit et la musique. C'est-à-dire qu'on a en fait trois éléments. Comment combiner ces trois éléments? C'est qu'il souligne le décalage très fort entre l'aspect novateur des moyens qu'offre le cinéma au XXe siècle et par contre le repli de beaucoup de réalisateurs qui n'osent pas se servir des musiques du XXe siècle. Ça, c'est un argument qu'on va constamment rencontrer. C'est-à-dire pourquoi le cinéma se complète-t-il dans, finalement, des horizons musicaux qui sont des horizons relativement passéistes, enfin, qui ne sont pas de nos jours. Il y a très peu, en fait, le cinéma art du XXe siècle sert très peu de la musique qui lui est contemporaine. Pourquoi ? Ça va être une des grandes questions, et je pense que vous aurez peut-être aussi pas mal d'interrogations à ce niveau-là. Pour moi, c'est quelque chose qui a créé, et pas seulement pour moi, pour beaucoup de compositeurs comme moi, qui sont des gens de la musique dite contemporaine, ça a créé une très forte frustration, à la fois comme amateur de cinéma, comme cinéphile, et comme musicien, parce qu'on se dit, mais pourquoi les réalisateurs font-ils appel à des musiques qui sont en fait souvent des sous-produits de musique du 19e ou d'autres siècles. Donc ça, déjà, donc Adorno et Eisler dénoncent cet aspect passéiste de l'utilisation de certaines musiques au cinéma. Le rapport entre musique et cinéma est jalonné de malentendus entre un certain nombre de compositeurs. Alors, je ne veux pas être négatif, si vous voulez, mais je crois que c'est important que vous preniez conscience des conflits qui ont pu naître entre certains, et pourquoi certains conflits ont pu naître, pourquoi finalement on a très peu de compositeurs importants, à part Prokofiev, du XXe siècle, qui ont été en mesure de travailler avec des cinéastes. Pourquoi la plupart des cinéastes ont toujours fait appel à des gens qui étaient beaucoup plus serviles. Ça ne remettait pas en cause d'ailleurs leur talent pour autant, mais en tout cas en tant que compositeur, qui ne s'imposait pas vraiment, mais qui se mettait au service du réalisateur. C'est qu'aujourd'hui, on continue à séparer la bande musicale, par exemple, de la bande des sons en général. C'est-à-dire qu'il est, à mon avis, tout à fait important de considérer la bande son comme un tout, dans lequel le bruit, par exemple, a autant de poids qu'un son musical, instrumental ou autre. Et ça, quelquefois, il y a une scission dans les films entre les bruits et les sons musicaux. Pour reprendre le cas de Herman Hitchcock, par exemple, dans Psychose, on a toutes sortes de bruits d'eau. Alors de toutes qui sont plus ou moins dramatiques, d'ailleurs selon les situations dans lesquelles elles se trouvent inscrites, et à chaque fois, vous avez une espèce de mariage entre les sons de l'eau, par exemple, et les sons de l'orchestre à cordes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre entre parenthèses aujourd'hui. Pierre Boulez, le chef d'orchestre et compositeur, a dit une chose qui me semble imparable, c'est que la musique, toute musique de film, est une musique électroacoustique. Ah oui, parce qu'en fait, c'est une musique qui provient par des haut-parleurs, Donc c'est une musique électroacoustique. Donc il est très illusoire de prétendre faire entendre des instruments. En fait, il y a toujours une distance, puisque c'est toujours la distance de l'enregistrement, de la prise de son, du filtrage éventuel, etc. Donc toute musique de film doit être considérée comme une musique électroacoustique. Donc ça veut dire aussi que le bruit fait partie de cette musique électroacoustique. Il y a le cinéma narratif traditionnel, mais il y a aussi le cinéma expérimental qui existe. Et qui a, alors là où il y a des possibilités, je pense par exemple à ce que Michel Chion, Michel Bokanowski, enfin un certain nombre de Thierry Coulson au niveau de la vidéo, enfin il y a toute une production très marginalisée, mais qui existe, mais qui n'est pas diffusée, ou qui est diffusée dans des musées ou dans des lieux très privilégiés. Et alors, est-ce que c'est la faute aussi de ce cinéma-là ? Donc, c'est pas seulement la musique contemporaine, c'est ce cinéma-là aussi qui est mis à l'écart. Bon, nous vivons avec une étroitesse sonore absolument terrifiante. Que j'avais trouvé dans le cahier du cinéma et qui est très, très symptomatique d'un critique cinématographique, je pense, qui s'appelle Jean Baconnet. Il dit: les mélomanes les plus exigeants dans une salle de concert perdent tout esprit critique dans une salle obscure et subissent des formules musicales usagées. Peut-être dans le noir sont-ils secrètement heureux de les retrouver. Voilà ce qu'il dit, Stravinsky. Les cinéastes ont recours à la musique pour des raisons sentimentales. Ils s'en servent comme de souvenirs, d'odeurs, de parfums, évoquant des souvenirs. Pour moi, j'ai besoin de la musique pour des raisons d'hygiène mentale, pour la santé de mon esprit. Je la considère comme une force qui donne aux choses leur raison d'être, crée leur harmonie, organise le monde.